Aristote, physique, traduction Jules Barthélemy Saint-Hilaire, livre 2, chapitre 5, sommaire. Suite de la théorie du hasard. Le hasard n'est cause ni de ce qui est constant, ni de ce qui est habituel et ordinaire. Le hasard est en dehors de l'un et de l'autre. Il est cause de ce qui se produit accidentellement, même dans les choses qui ont une fin. Le hasard est indéterminé et toujours obscur pour l'homme. Il n'est pas raisonnable. Bonheur ou malheur qu'il cause, inconstance de la fortune. Paragraphe 1. Un premier point évident, c'est que parmi les choses, les unes étant éternellement d'une manière uniforme et les autres étant d'une certaine façon dans la pluralité des cas, le hasard, ni rien de ce qui vient du hasard, ne peut du tout être la cause ni des uns ni des autres, c'est-à-dire ni de ce qui est nécessairement et toujours, ni de ce qui est dans la pluralité des cas. Mais comme il y a encore des choses qui ont lieu en dehors de celles-là, et que tout le monde reconnaît dans ces autres choses l'effet du hasard, il est incontestable que le hasard et la spontanéité sont quelque chose, car nous disons à la fois et que les choses de ce genre viennent du hasard, et que les choses qui viennent du hasard sont du genre de celles-là. Paragraphe 2. Parmi toutes les choses qui ont lieu, les unes sont produites en vue d'une certaine fin. Les autres ne sont pas produites ainsi. Dans les premières, il y a tantôt préférence et intention, tantôt il n'y en a pas. Mais ces deux cas n'en rentrent pas moins dans les choses produites en vue d'une fin. Par conséquent, il se peut évidemment que même parmi les choses qui sont contre le cours nécessaire ou ordinaire des choses, il y en a qui ont un certain but. Les choses ont un but toutes les fois qu'elles sont faites ou par l'intelligence de l'homme ou par la nature. Et si ces choses arrivent indirectement et accidentellement, nous les rapportons au hasard. Paragraphe 3. De même, en effet, que l'être est ou en soi ou par accident, de même, la cause peut être ou en soi ou simplement accidentelle. Ainsi, la cause en soi de la maison, c'est ce qui est capable de bâtir les maisons. Indirectement et accidentellement, c'est le blanc ou le musicien. Paragraphe 4. La cause en soi est toujours déterminée et précise, mais la cause par accident est indéterminée, car un seul être peut avoir un nombre infini d'accidents. Paragraphe 5. Je le répète donc, lorsque dans les choses qui ont lieu en vue d'une certaine fin, il s'en produit une accidentellement, on dit alors qu'elle est fortuite et qu'elle est spontanée. Plus tard, nous expliquerons la différence que nous mettons entre ces deux termes. Mais ici, nous nous bornons à dire qu'évidemment, tous deux expriment des choses qui ont un but et un pourquoi. Paragraphe 6. Par exemple, quelqu'un serait bien allé au marché pour y avoir son argent, s'il avait su qu'il pût en rapporter le prix de sa créance. Mais il n'y est pas allé dans cette intention, et c'est accidentellement qu'il y est allé et qu'il a fait ce qu'il fallait pour rapporter son argent. Rencontrer son débiteur et se rendre dans ce lieu n'était pour le créancier ni un acte ordinaire ni une nécessité. Paragraphe 7. Ici, la fin, c'est-à-dire le recouvrement de l'argent, n'est point une des causes qui sont dans la chose même. C'est un acte de préférence réfléchie et d'intelligence. Et dans ce cas, On dit que l'individu est allé au marché par hasard. Mais s'il y est allé de propos délibéré et pour cet objet spécial, soit qu'il y alla toujours ou le plus ordinairement pour recouvrer sa dette, on ne peut plus dire que c'est par hasard qu'il est allé au marché. Paragraphe 8. Donc, évidemment, le hasard est une cause accidentelle dans celle de ces choses qui, visant à une fin, dépendent de notre libre choix. Paragraphe 9. C'est là ce qui fait aussi que le hasard et l'intelligence se rapportent à un même objet, car il n'y a pas de choix et d'intention réfléchie sans intervention de l'intelligence. Paragraphe 10. Ainsi, les causes qui produisent les effets du hasard sont nécessairement indéterminées, et cela donne à croire que le hasard est dans le domaine de l'indéterminé et qu'il reste profondément obscur pour l'homme. Paragraphe 11. Aussi, en un certain sens, il semble que rien ne peut venir du hasard, et toutes ces opinions peuvent se soutenir parce qu'elles sont très rationnelles. À un point de vue, la chose vient du hasard, car elle se produit indirectement et accidentellement. Et dès lors, la fortune peut être considérée comme cause en tant que le fait est accidentel. Mais à parler absolument, le hasard n'est jamais cause de quoi que ce soit. Paragraphe 12. Par exemple, en soi, la cause de la maison est le maçon qui l'a construit. Indirectement et accidentellement, c'est le joueur de flûte. Et il peut y avoir un nombre infini de causes qui font qu'un homme qui va sur la place publique en rapporte son argent sans y être du tout allé dans cette intention, y allant simplement pour y voir une personne ou parce qu'il poursuit quelqu'un en justice ou parce qu'il y est poursuivi. Paragraphe 13. On peut dire aussi, avec toute vérité, que le hasard est quelque chose de déraisonnable, car la raison éclate dans les choses qui restent éternellement les mêmes, et dans celles qui sont le plus souvent d'une certaine façon. Le hasard, au contraire, ne se rencontre que dans les choses qui ne sont ni éternelles ni ordinaires. Et comme les causes de ce dernier ordre sont toujours indéterminées, le hasard est indéterminé comme elles. Paragraphe 14. Néanmoins, on peut, dans quelques cas, se demander si ce sont bien les premières choses venues qui peuvent être les causes du hasard. Par exemple, on peut se demander si la cause de la guérison d'un malade est le bon air que le malade a pris, ou la chaleur qu'il a ressentie, et non pas la coupe de ses cheveux. Car même parmi les causes accidentelles, il y en a qui sont plus rapprochées les unes que les autres. Paragraphe 15. On dit que le hasard est heureux quand il survient quelque heureux événement. On dit que le hasard est malheureux quand il survient quelque malheur. Paragraphe 16. Si ces mêmes événements prennent quelque grandeur, on dit que c'est de la prospérité ou de l'infortune. Et même lorsqu'il s'en faut de très peu, que le mal ou le bien ne devienne considérable, on dit encore que c'est de l'infortune ou de la prospérité, parce que la pensée voit le mal et le bien comme s'ils étaient déjà réalisés. Et quand il s'en manque de si peu, on peut croire qu'il ne s'en manque de rien. Paragraphe 17. On a d'ailleurs bien raison de dire que la prospérité est inconstante, car la fortune elle-même est pleine d'inconstance, puisque rien de ce qui vient du hasard ne peut être ni toujours, ni même le plus fréquemment. Chapitre 6. Sommaire. Suite de la théorie du hasard. comparaison du hasard et du fortuit, qui se produit spontanément. Différence du spontané et du hasard. L'idée de hasard implique toujours l'idée de liberté. Opinion ridicule de Protarque sur les pierres des autels. L'idée du spontané exclut au contraire l'idée de réflexion et de libre arbitre. Des choses faites en vain. Le hasard et le spontané font tous deux partie des causes motrices, mais ce sont des causes postérieures. L'intelligence et la nature sont les causes supérieures de tout l'univers. Paragraphe 1. Ainsi que je l'ai dit plus haut, le hasard est le spontané, c'est-à-dire ce qui se produit de soi-même, sont tous deux des causes indirectes et accidentelles dans les choses qui ne peuvent être ni absolument toujours, ni dans la majorité des cas. Et parmi ces choses, dans celles qu'on peut regarder comme se produisant en vue d'une certaine fin. Paragraphe 2. La différence entre le hasard et le spontané, c'est que le spontané, ou ce qui arrive de soi-même, est plus compréhensif que le hasard. Attendu que tout hasard est du spontané, tandis que tout spontané n'est pas du hasard. Paragraphe 3. En effet, le hasard et tout ce qui est de hasard n'est jamais rapporté qu'aux êtres qui peuvent avoir aussi un hasard heureux, du bonheur et d'une manière générale une activité. C'est là ce qui fait encore que nécessairement le hasard ou la fortune ne peut concerner que les choses où l'activité est possible. Et ce qui le prouve, c'est que la prospérité se confond avec le bonheur, ou du moins s'en rapproche beaucoup, et que le bonheur est en effet une activité d'un certain genre, puisque c'est une activité qui réussit et fait bien. J'en conclus que les êtres auxquels il n'est pas permis d'agir ne peuvent rien faire non plus qui soit attribuable au hasard. Paragraphe 4. C'est pour cela que ni l'être inanimé, ni la brute, ni même l'enfant ne font rien qu'on puisse qualifier de hasard, parce qu'ils n'ont pas de préférence libre et réfléchie dans leurs actes. Quand donc on parle pour ces êtres de bonheur et de malheur, ce n'est que par simple assimilation, tout comme Protarque prétendait que les pierres qui entrent dans la construction des autels sont heureuses parce qu'on les adore, tandis que d'autres pierres de la même nature qu'elles sont foulées aux pieds. Paragraphe 5. Mais il se peut que les êtres que nous venons de nommer souffrent par hasard de certaines façons quand on fait quelque acte qui les concerne et qu'on le fait par hasard. Mais autrement, ce n'est pas possible. Paragraphe 6. Quant au spontané qui se produit de lui seul, on le trouve à la fois dans des animaux autres que l'homme et même dans la plupart des êtres inanimés. Par exemple, un cheval s'est mis de lui-même en marche spontanément. Ce mouvement lui a bien sauvé la vie, mais il ne l'avait pas fait en vue de son salut. Autre exemple, le trépied est tombé fortuitement et de lui-même. Dans sa chute, il s'est placé de manière qu'on puisse s'asseoir dessus. Mais le trépied n'est pas tombé pour offrir un siège à quelqu'un. Paragraphe 7. Il est donc évident que dans les choses qui arrivent en général en vue de quelque fin, quand une chose dont la cause est extérieure arrive, sans que quoi que ce soit pour l'effet même qui se produit, on dit que cette chose se produit spontanément et d'elle-même. On dirait au contraire que c'est du hasard si c'était de ces choses qui se produisent fortuitement dans les actes libres des êtres qui sont doués de libre arbitre. Paragraphe 8. La preuve, c'est qu'on dit qu'une chose est faite en vain quand le résultat en vue duquel on agissait ne se produit pas, mais que se produit seulement la chose faite en vue de ce résultat. Par exemple, on se promène pour se relâcher le ventre. Mais si le relâchement du ventre ne suit pas la promenade, on dit que l'on s'est promené en vain et que la promenade a été vaine. C'est ainsi que l'on dit qu'une chose a été faite en vain, quand, faite naturellement pour une autre, elle n'accomplit pas l'objet qu'elle avait pour fin et pour lequel la nature l'avait faite. Ce serait un non-sens ridicule de dire qu'on s'est baigné en vain parce qu'il n'y a point eu d'éclipse de soleil, puisqu'en effet, le bain n'a pas été pris en vue de l'éclipse de soleil qui a manqué. Ainsi, comme l'indique l'étymologie même du mot en grec, on dit d'une chose qu'elle est spontanée et est arrivée de soi-même quand cette chose même a été vaine. Et par exemple, la pierre est tombée sans que ce fût pour donner un coup à quelqu'un. Elle est donc en ce cas tombée spontanément et fortuitement, puisqu'elle pourrait aussi tomber par la volonté formelle de quelqu'un qui aurait l'intention de porter un coup à une autre personne. Paragraphe 9. C'est surtout dans les choses qui se produisent par le fait seul de la nature qu'on peut distinguer et séparer le hasard du spontané. Quand un phénomène a lieu contre les lois naturelles, nous disons qu'il est spontané bien plus tôt que nous ne disons que c'est un hasard. Car il y a cette différence que la cause est intérieure pour l'un et tout externe pour l'autre. Paragraphe 10. On doit voir, par ce qui vient d'être dit, ce qu'on entend par le hasard et le spontané. On doit voir, en outre, les différences de l'un et de l'autre. Paragraphe 11. Quant à leur mode d'action comme cause, toutes deux doivent être également classées parmi les causes d'où vient le principe du mouvement, car ils sont causes de choses qui sont dans la nature ou qui viennent de l'intelligence, mais le nombre des phénomènes est indéterminé. Paragraphe 12. D'autre part, comme le hasard et le spontané sont causes de choses que l'intelligence ou la nature pourraient produire, à savoir toutes les fois que l'intelligence et la nature produisent quelque chose accidentellement, et comme ce qui est accidentel ne peut être antérieur aux choses en soi, il est clair que jamais non plus la cause accidentelle n'est antérieure à la cause essentielle. Donc, le hasard et le spontané ne viennent qu'après l'intelligence et la nature, de telle sorte que si le spontané était à toute force la cause du ciel, il n'en faudrait pas moins nécessairement que l'intelligence et la nature fussent les causes antérieures de bien d'autres choses et les causes de tout cet univers. Chapitre 7. Sommaire. Le physicien, en étudiant le pourquoi des phénomènes, doit considérer quatre sortes de causes: l'essence, le mouvement, la fin et la matière. Il y a, dans la physique, trois recherches principales sur l'immobile, sur le mobile impérissable et sur le périssable. Le moteur peut être de deux genres, primitif ou intermédiaire. Paragraphe 1. Il est donc manifeste qu'il y a des causes et que le nombre de ces causes est bien tel que nous l'avons établi, puisque la recherche de la cause embrasse précisément ce nombre de questions. Ainsi, la cause d'une chose se ramène soit à l'essence même de l'objet, terme dernier dans les choses où il n'y a pas de mouvement, et par exemple dans les mathématiques, où la recherche extrême vient aboutir à la définition de la ligne droite, ou à celle de la proportion, ou de telle autre idée, soit au moteur primordial, et par exemple, d'où vient que tel peuple a fait la guerre. C'est qu'on l'avait pillé, soit au but qu'on se propose, et par exemple encore, pourquoi tel peuple a-t-il fait la guerre? C'est afin d'obtenir la domination, soit enfin la matière, dans les objets qui naissent et sont produits. Ainsi, la nature et le nombre des causes sont bien ce que nous venons de dire. Paragraphe 2. Du moment qu'il y a quatre causes, le physicien doit les connaître toutes les quatre. Et c'est en rapportant le pourquoi des phénomènes à ces quatre causes qu'il rendra compte en vrai physicien et d'après les lois naturelles de la matière, de la forme, du mouvement et du but final des choses. Paragraphe 3. Souvent, trois de ces causes se réduisent à une seule. Ainsi, l'essence et la fin se réunissent. Et de plus, la cause d'où vient le mouvement initial se confond spécifiquement avec ces deux-là, comme par exemple l'homme engendre l'homme, ce qui a lieu généralement dans toutes les choses qui, après avoir reçu le mouvement, le transmettent à leur tour. Quant à celles qui ne transmettent point le mouvement pour l'avoir reçu, elles ne sont plus du domaine de la physique, car ce n'est pas parce qu'elles ont en elles-mêmes un mouvement qui leur soit propre ou un principe de mouvement qu'elles peuvent le communiquer, mais elles le donnent tout en étant immobiles elles-mêmes. Paragraphe 4. Il y a donc ici trois études distinctes, l'une sur ce qui est immobile, l'autre sur ce qui est mobile mais impérissable, et la dernière sur toutes les choses qui périssent. Paragraphe 5. Par conséquent, la cause des choses se trouve soit en étudiant leur matière, soit en étudiant leur essence qui les fait ce qu'elles sont, soit enfin en étudiant le moteur initial. C'est par cette méthode, en effet, quand il s'agit de la génération des choses, qu'on en recherche surtout les causes en se demandant quel phénomène se produit après tel autre, quel a été le premier agent, quel effet a éprouvé l'être que l'on considère, et en se posant toujours des questions analogues à celles-là. Paragraphe 6. Il y a deux principes qui, dans la nature, peuvent mouvoir les choses. L'un n'est pas du domaine de la physique, attendu qu'il n'a pas en lui-même l'origine du mouvement. Et tel est l'être, s'il en est un, qui peut mouvoir sans être mu, comme le ferait l'être absolument immobile et antérieur à tous les êtres. L'autre principe, c'est l'essence et la forme, parce que la forme est la fin en vue de laquelle est fait tout le reste. Paragraphe 7. Et par suite, comme la nature agit en vue d'une certaine fin, il faut aussi que le physicien l'étudie et la connaisse sous ce rapport. Paragraphe 8. En résumé, le physicien doit expliquer de toutes les façons la cause des choses et démontrer par exemple que telle chose vient nécessairement de telle autre, qu'elle en vienne d'ailleurs soit d'une manière absolue et constante, soit dans la pluralité des cas. Il faut qu'il puisse prévoir que telle chose aura lieu comme des prémices, on augure et on tire la conclusion. Enfin, il doit dire ce qu'est l'essence de la chose qu'il a fait, ce qu'elle est, et expliquer pourquoi elle est mieux de telle façon que de telle autre, non pas absolument, mais eu égard à la substance de chacune des choses.